Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, la France dans le rouge à la veille des congés d'été. Presque tout le pays sous la canicule, alors que les départs en vacances auront lieu dans les heures à venir pour les tout premiers. Le gouvernement appelle à reporter les trajets en train ou en voiture, si possible. Dans les gares, quelques perturbations à cause de la chaleur. Nous irons en gare de Lyon à Paris. 4000 écoles fermées et donc cette alerte canicule qui continue. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Chaleur extrême dans le sud-est, 4 départements en alerte rouge.
Oui, 42 à 45 degrés prévus entre l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône. 34 à 40 degrés sur les autres départements en vigilance orange. Alors on respire mieux près de la Manche et près de l'océan. Côté ciel du soleil, quelques nuages bienvenus sur les plages de l'ouest. Ça va être très chaud demain, surtout la chaleur remonte vers les régions du nord. Oui. Et puis ça va commencer à s'améliorer par l'océan.
Et cet après-midi, un record absolu de chaleur en France pourrait être battu. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Pour l'instant, le record à battre est
44 degrés 1, c'était en pleine canicule de 2003, le 12 août exactement, dans le Gard.
Au-delà de l'anecdote du chiffre, vous nous rappellerez depuis quand on mesure la température, de quoi parle-t-on quand on parle de record ? Le G20, sommet des grandes puissances mondiales, s'est ouvert ce matin en plein réchauffement climatique et échauffement politique. L'expression est du secrétaire général de l'ONU. Crispation sur l'Iran, le commerce, le climat, la démocratie. Le tableau général est assez sombre. Sophie Parmentier nous racontera l'histoire de ses grands-parents qui sont allés dans le camp de Roj en Syrie. Là sont retenus des dizaines d'enfants de djihadistes avec leur mère. Voyage très éprouvant pour les grands-parents.
L'image qu'on retient, qui nous quittera sans doute jamais, c'est ces petites mains accrochées au grillage, le regard, puis nous qui marchions à reculons avec les gardes qui nous poussaient et qui nous demandaient de partir.
Le récit de Sophie Parmentier tout à l'heure dans ce journal. Encore, le MEDEF retire l'invitation à Marion Maréchal pour ses universités d'été. La polémique était trop vive. Jean-Luc Mélenchon un peu plus en difficulté depuis l'annonce de son procès en correctionnel après la perquisition plus que mouvementée au siège de la France Insoumise. Et puis bien sûr, le match du jour. France-États-Unis, quart de finale de la Coupe du Monde féminine de football. Notre invitée est la toujours pertinente consultante de Radio France, Nadia Ben Mokhtar. Dans le domaine du classique, un Français vient de remporter presque une Coupe du Monde. Alexandre Kantorov, 22 ans, remporte le concours Tchaïkovski. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Et d'abord les consignes de prudence du Premier ministre, car ce week-end est le tout premier de départ en vacances pour ceux qui prennent un peu d'avance sur le calendrier scolaire ou pour des touristes étrangers. Sur les routes, c'est rouge aujourd'hui dans le sens des départs en Ile-de-France. Dans les gares, on verra si les voyageurs sont prêts à écouter les consignes du Premier ministre. En tout cas, écoutez ce qu'il disait ce matin au ministère de la Santé.
C'est aujourd'hui la totalité de la population qui doit faire attention, respecter des consignes de bon sens et de prudence pour soi, mais aussi pour ses proches, pour ses voisins. Il y a des morts évitables dans un épisode caniculaire. Il y a une noyade par jour depuis le début de l'épisode caniculaire. C'est un message d'appel à la responsabilité, à la vigilance des parents vis-à-vis de leurs enfants. Et puis aussi, utiliser les transports n'est pas totalement sans risque. C'est la raison pour laquelle nous avons fait passer des consignes très fermes aux concessionnaires d'autoroutes pour que des mesures de distribution d'eau et de rappel des bonnes consignes soient formulées en français et aussi en anglais pour que les touristes puissent être informés. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons passé des consignes assez fermes à la SNCF pour que des messages soient indiqués de façon répétée dans les gares, tendant à expliquer à nos concitoyens qui s'apprêtent à prendre le train qu'il faut le faire si c'est véritablement nécessaire, parce que la circulation des trains, on le sait, compte tenu des très grandes températures, notamment dans le sud, peut être impactée par des difficultés techniques.
Au plan politique, en tout cas, le spectre de 2003, un gouvernement accusé de sous-estimer la crise est pour l'instant loin. Selon un sondage Doxa, les trois quarts des personnes interrogées estiment que le gouvernement gère bien cet épisode de chaleur. Édouard Philippe était au micro de Sophie Bécherel ce matin. Alors dans les gares, est-ce que les voyageurs sont prêts à reporter un départ vers le sud, notamment pour éviter un éventuel coup de chaud? Est-ce que la canicule a des conséquences sur le programme de circulation des trains? Jean-Michel Naga, vous êtes à Paris, gare de Lyon, que se passe-t-il?
Bruno, oui, une véritable galère pour des centaines de voyageurs, en particulier ceux qui avaient réservé leur billet pour Montpellier ce matin. Le départ était prévu à 9h20. En fin de matinée, à cause d'une panne de climatisation dans le TGV, ils patientaient toujours dans le hall. Comme Lucie, 70 ans, touriste québécoise, assise à côté de ses valises, elle était pourtant arrivée en avance ce matin.
Depuis 8h, on voulait arriver, on voulait pas arriver en retard. On préfère attendre que d'être attendu.
Donc ça fait bientôt 4 heures.
Bientôt 4 heures.
Vous prenez ça avec de la bonne humeur.
En attendant que je perde conscience, oui.
Alors tous ces voyageurs auraient pu reporter leur départ. Encore faut-il qu'il y ait de la place dans les autres TGV. Au guichet, il y a 2h30 d'attente. Merveille vient de Strasbourg. Elle a fait étape à Paris hier soir dans l'espoir de pouvoir rentrer chez elle à Avignon.
Bah hier, j'ai fait déjà une nuit ici. J'ai dû payer 200€ pour un hôtel. Là, je n'ai pas de place sur le billet train. J'ai pas encore repayé 200€ pour dormir ici. Et encore un billet train pour aller dans le sud. Donc, je sais pas.
Tout est complet aujourd'hui, demain, après-demain?
Je sais pas pour demain, mais moi, je vais rentrer chez moi aujourd'hui, quoi.
Vous l'avez compris, les vacances, ça n'attend pas, nous disent les voyageurs. Mais ce n'est pas l'avis de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui est attendue gare de Lyon dans quelques minutes pour appeler les voyageurs à reporter leur déplacement par prudence en raison de la canicule.
Jean-Michel Naga à Paris Gare de Lyon avec Lucien Lefebvre. Même si tout se passe plutôt bien depuis le début de la semaine, les conséquences très concrètes de cette vague de chaleur sont importantes dans nos vies quotidiennes. 4000 écoles fermées ou en accueil réduit aujourd'hui. Un examen national, le brevet des collèges reporté, il devait se tenir hier et aujourd'hui. Des millions de voitures qui n'ont pas le droit de circuler à Paris et sa proche banlieue, à Marseille et Lyon. Et les employés dans les urgences des hôpitaux qui courbent les chines avant le week-end. Et donc, cette alerte orange quasiment partout et ces 4 départements en alerte rouge. Hérault, Bouches-du-Rhône, Gard et Vaucluse, préfecture Avignon. C'est là que nous retrouvons Sébastien Sabiron. Bonjour Sébastien.
Bonjour Bruno.
13h06, quelle température à Avignon ?
Eh bien déjà 38 degrés et le mercure devrait atteindre 42 cet après-midi. Ambiance cocotte minute entre les remparts de la Cité des Papes. Damien a 50 colis à livrer en pleine cagne, comme on dit ici.
Pleine cagne, c'est ça.
Rien que de tirer des palettes, ça fait chaud quoi.
Vous avez commencé à quelle heure ce matin ?
À 6h et après on finit à 17h30. À 2h ça va taper.
Difficile aussi pour les personnes âgées isolées dont s'occupe Eric bénévolement, lui-même retraité et particulièrement vigilant avec elles.
Elles ne veulent pas boire, mais non, j'ai pas l'habitude de boire, mais il faut boire. Vous avez du brumisateur, ah mais non, je ne veux pas. Non, mais j'ai déjà été prendre la douche le matin à 7h. Les faire changer, c'est difficile.
Et dans le centre historique, les sans-abri nombreux en Avignon cherchent de l'ombre à l'image de Stéphane et de sa chienne.
Sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en danger là. Entre, je veux dire, les personnes qui consomment de l'alcool, plus les drogues qui sont à côté, il faut dire ce qu'il est. Hein. La chaleur qui tombe en plus dessus, ça arrange pas les choses. Donc. Il y a beaucoup de risques pour les personnes de là. Hein.
Alors, Sébastien Sabiron, le Vaucluse, comme les 3 autres départements, est en alerte rouge canicule. Ça signifie quoi ?
Eh bien, une batterie de mesures prises par le préfet de Vaucluse. Les crèches et les écoles restent ouvertes aujourd'hui, mais seulement pour accueillir les enfants dont les parents ne peuvent pas assurer la garde. Les activités pédagogiques sont suspendues et les sorties scolaires annulées. Dans les EHPAD, notamment, le plan bleu est activé, destiné à la gestion de crise. Toutes les manifestations sportives sont interdites dans toute la région PACA. Enfin, les communes voisines de l'autoroute A7 sont mobilisées pour accueillir d'éventuels naufragés de la route en cas de surchauffe cet après-midi pour ce week-end de grand départ en vacances.
Merci Sébastien Sabiron en direct d'Avignon. Alors Julie Pietri, cet après-midi, peut-être qu'un record absolu de chaleur en France sera battu. Rappelons ce que sont les grands chiffres, les grands records.
Alors, 1947, 1976, ouais. 1983 et bien sûr 2003 sont des années à pic de chaleur intense. La température la plus élevée jamais atteinte en France, c'est pour l'instant 44°1. Le 12 août 2003, en pleine canicule, dans le Gard à Saint-Christol-les-Alès et Conquérac. Mais l'histoire va s'écrire dans les prochaines heures, puisque Météo France prévoit ponctuellement dans les 4 départements en alerte rouge des températures touchant ou dépassant les 45 degrés. Donc on savait déjà qu'il n'avait jamais fait aussi chaud en moyenne en France pour un mois de juin. On pourra dire probablement dans quelques heures qu'il n'aura jamais fait aussi chaud tout court depuis que les mesures existent.
Alors depuis que les mesures existent, ça c'est une clé pour comprendre ce qui va se passer cet après-midi.
À Paris par exemple, quand vous entendez record de température, cela veut dire record depuis 1872 parce que les mesures Météo France sont anciennes. À La Rochelle, quand la ville a atteint mercredi 40°5, c'est du jamais vu depuis l'installation des capteurs en 1955. Et dans les 4 départements en rouge cet après-midi, les records n'auront pas tous la même valeur. Marseille pourra aller chercher dans son histoire jusqu'en 1921, Nîmes jusqu'en 1922, alors que Pérols-en-Provence n'a de relevé officiel que depuis 2005. En tout cas, Sébastien Léas, prévisionniste que l'on connaît bien ici, m'expliquait tout à l'heure que dans son équipe, on ne pensait pas atteindre des températures aussi élevées dès cette année et encore moins dès le mois de juin.
Et attention au street pooling, cette pratique qui consiste à ouvrir les bouches à incendie pour récupérer de l'eau et se rafraîchir dans la rue. Un petit garçon projeté en l'air à Saint-Denis, son pronostic vital n'est plus engagé, apprend-on ce matin. L'actualité internationale, et d'abord nous allons dans le camp de Roj, en Syrie, au Kurdistan syrien. Là sont retenus depuis plus d'un an des centaines d'enfants de djihadistes. Plusieurs dizaines sont français, ils sont avec leur mère. Et voici une histoire particulière. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
C'est vous qui allez nous la raconter. Histoire de grands-parents, les premiers Français qui ont tenté d'aller voir leurs petits-enfants et ça s'est mal passé.
Oui, ils s'appellent Monsieur et Madame Lopez, couple d'éducateurs à la retraite, parents d'un fils parti rejoindre Daesh en 2015 et qui a été condamné à la peine de mort en Irak il y a tout juste un mois. C'est juste après ce procès express auquel ils n'ont pas pu assister que les Lopez ont décidé de partir dans le camp de Roj où sont retenus avec leur belle-fille leurs quatre petits-fils de 9 ans, 5 ans, 3 ans et 8 mois. Ils voulaient juste les serrer dans leurs bras, les réconforter, comme ont pu le faire sous leurs yeux d'autres grands-parents, autrichiens et suédois. Mais les Lopez racontent qu'ils ont été bloqués par les Kurdes à la porte du camp.
La Suédoise et les Autrichiens ont pu rentrer dans le camp, voir leurs filles et leurs petits-enfants pendant une heure et demie. Nous, on nous a fait attendre et on nous a dit clairement que nous n'aurions pas accès au camp et que cette décision ne provenait pas des autorités kurdes. Elle provenait, nous a-t-on dit, de la coalition et de la France.
Les Lopez avaient apporté pour leurs petits-enfants des valises pleines de médicaments, de livres et de jouets avec des biberons pour le dernier-né, né sous la tente cet hiver. Ils ont fini par avoir le droit de déposer un bagage, mais ont dû se résoudre à s'éloigner du camp sans voir leurs petits-enfants jusqu'à ce qu'ils les aperçoivent derrière le grillage.
Nous avons vu à une certaine distance au loin deux petites silhouettes contre la grille. On a reconnu les deux aînés de nos petits-enfants. On a été jusqu'à eux, on a pu les embrasser à travers la grille, les toucher. Mais ça a été un moment extrêmement bref. Au bout d'une minute, de deux minutes, les gardes s'en sont aperçus. Ils ont accouru vers nous, ils nous ont demandé de nous en aller.
Mon mari a pu embrasser l'aîné. Moi, j'étais derrière, j'ai pu juste lui parler, lui dire qu'on l'aimait, qu'on était là pour lui, pour ses frères aussi, et qu'on pensait tout le temps à eux. Et on espère vraiment qu'ils rentrent vite, parce qu'ils sont en train de s'abîmer. Pourquoi cette injustice pour des enfants innocents?
Les Lopez viennent d'adresser une lettre à Emmanuel Macron dans laquelle ils demandent au président le rapatriement de tous les enfants français prisonniers au Kurdistan syrien.
La situation au Moyen-Orient, il en sera question peut-être au G20 dans les heures à venir de l'importance des sommets internationaux. Il y a 100 ans exactement était signé le traité de Versailles qui scellait la fin de la Première Guerre mondiale et jetait hélas les bases de la Seconde. Le contexte est infiniment moins dramatique aujourd'hui mais c'est un contexte d'inquiétude alors que vient de s'ouvrir le G20 à Osaka, au Japon, les 20 plus grandes puissances du monde réunies, photo officielle. Donald Trump, l'homme qui augmente les droits de douane, discute avec Mohamed Ben Salman, un des ennemis de l'Iran, sous pression au Moyen-Orient. Les dirigeants plus ou moins autoritaires, Bolsonaro le Brésilien, Erdogan le Turc, Poutine le Russe, saluent de la main, ils sont souriants. Angela Merkel est sur le côté, elle dont la santé suscite des inquiétudes. Emmanuel Macron semble raide, comme sa déclaration sur le climat cette semaine. Voilà pour la photo. Dominique André, vous êtes en direct d'Osaka. Où il est 20h13. Ces messieurs dames sont en train de dîner ou peut-être ont-ils déjà fini de dîner. Un G20, c'est en principe ce qu'il y a de plus sérieux et carré, Dominique. Eh bien, la vedette cette année, c'est encore Donald Trump. Fidèle à sa tactique régulière, il dit tout et son contraire.
Oui, et dans les couloirs du G20, on essaie de suivre tout ça et toutes ces déclarations et contre-déclarations de Donald Trump. Et ce n'est pas évident, il faut bien le reconnaître. On en a encore eu plusieurs exemples ces dernières heures avec l'Iran, belliqueux hier contre le régime de Téhéran, ce qui a fait craindre à tous un risque de conflit dans la région du Golfe. Eh bien aujourd'hui, rien ne presse pour Donald Trump. Espérons que ça va finir par s'arranger, a même déclaré le président américain qui avait l'air un peu plus calme. L'Allemagne, hier, pour Donald Trump, c'était un partenaire défaillant. Eh bien, juste avant sa rencontre avec Angela Merkel aujourd'hui, elle est devenue une femme fantastique et une grande amie. Quant à l'Inde, responsable de taxes douanières inacceptables hier, aujourd'hui, c'est un pays avec lequel nous allons bien nous entendre, a dit Donald Trump. Et que dire enfin du Japon, qui est tout de même le pays qui héberge ce sommet du G20. Cette semaine, le président américain s'est moqué de la dépendance des Japonais vis-à-vis des États-Unis. Avant de se réjouir de la vente prochaine de nombreux équipements militaires américains à l'armée japonaise.
Bon, Dominique, je parlais de la déclaration raide d'Emmanuel Macron sur le climat cette semaine. S'il n'est pas question de l'accord de Paris dans le communiqué final, je ne signe pas, dit le président français. Alors lui qui a du mal à convaincre en France qu'il est sincèrement écolo, il veut obtenir que les leaders des grands pays s'engagent à nouveau à lutter contre le dérèglement climatique. Ce n'est pas sûr qu'il gagne ce combat, Dominique.
Non, c'est pas sûr du tout. Emmanuel Macron, effectivement, a fait de la défense de cet accord de Paris signé en 2015 une priorité. C'est sa ligne rouge, il l'a dit. Ce matin, donc, Emmanuel Macron s'est réuni avec les principaux dirigeants européens pour monter un front uni contre les États-Unis qui ont claqué la porte de l'accord en 2015. Mais cela ne suffit pas à Donald Trump. Le président américain fait maintenant monter la pression sur plusieurs pays du G20, dont l'Australie, la Turquie, le Brésil et l'Arabie Saoudite, pour qu'ils renoncent à leur tour à leur engagement. Alors Emmanuel Macron va-t-il gagner la bataille? Ce n'est pas acquis du tout, reconnaît l'Élysée, qui ne signera pas la déclaration finale du sommet demain si cette déclaration ne défend pas une ambition climatique. Et pas de signature à la fin de ce sommet serait une première diplomatique pour la France dans l'histoire du G20.
Et de ce G20, merci Dominique André en direct du Japon. On retiendra aussi l'échange entre le russe Poutine et le polonais Tusk, charge de Poutine contre les démocraties occidentales dans une interview. Les progressistes ne peuvent pas dicter ce qu'ils veulent comme ils l'ont fait ces dernières années. Cette idée du progressisme est obsolète. Réponse du polonais, ce sont l'autoritarisme, le culte de la personnalité et la loi des oligarques qui sont obsolètes. Et ce matin, la première ministre britannique Theresa May a encore appelé Vladimir Poutine à stopper ces actes de déstabilisation qui menacent le Royaume-Uni et ses alliés.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
21h ce soir, le match tant attendu France-États-Unis, quart de finale de la Coupe du Monde féminine de football. Pour en parler, notre invité est Nadia Benmokhtar. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Consultante de Radio France et France Inter. Vous avez déjà senti ce degré d'impatience, de fébrilité, d'attente avant un match féminin?
Non, honnêtement, c'est la première fois, c'est vraiment l'affiche qui fait rêver tout le monde.
Oui.
Donc on le sentait nous avant en tant que joueuse, mais ça se limitait à quelques centaines de personnes, alors que là, une impatience à hauteur de 15 millions, 20 millions de téléspectateurs, c'est vrai que c'est la première fois.
15 millions, 20 millions, vous pensez qu'il y aura ça ce soir?
Non, je me dis que si c'était 11 avant, bon, je suis peut-être un peu généreuse avec 15, mais on peut peut-être aller à 12 ou à 13.
Ouais. Non, on verra, c'est tout à fait possible. Alors les Américaines, elles sont tenantes du titre, triple championne du monde, quadruple championne olympique, elles sont favorites.
Clairement. De toute façon, elles sont favorites de toutes les compétitions auxquelles elles participent. Donc comme ça, c'est simple. C'est une nation de football. Le football au féminin aux États-Unis, c'est toutes les petites filles. C'est un sport scolaire, c'est un sport universitaire. C'est un sport qui est vraiment étiqueté féminin.
Qui est dans la culture américaine.
Exactement. Ouais. C'est vraiment aux États-Unis, quand il a fallu faire des choix, les garçons allaient plutôt vers le foot américain, le basket, le baseball. Et les filles, c'était vraiment le football. Donc voilà, c'est vraiment un très grand nombre de licenciés, des joueuses qui sont des superstars à la fois sur le terrain, mais aussi médiatiques. Donc c'est vraiment le pays du football au féminin et du coup c'est vraiment un plaisir pour l'équipe de France d'affronter une telle nation en quart de finale.
Alors quand on demande à Corinne Diacre si les États-Unis c'est la meilleure équipe du monde, elle dit oui. Mais comme toutes les équipes, elles ont des failles. Où sont les failles, Nadia Benmokhtar?
On a eu du mal à les voir, les failles, lors des matchs de poule, parce qu'elles ont dominé leur poule outrageusement, et en même temps, elles avaient peu d'adversité. En revanche, dès qu'on les a vues jouer contre l'équipe espagnole, en huitième de finale, on a effectivement décelé que, défensivement, c'était parfois un peu approximatif.
Sur les côtés, notamment?
Exactement. Ouais. Donc, c'est sûr que leur vraie puissance, leurs vraies armes, elles sont offensives. On le sait. Elles ont des joueuses qui vont très vite, qui sont très techniques, qui sont efficaces. En revanche, défensivement, il y a parfois des coups à jouer. Et vu que l'équipe de France est plutôt à l'aise dans un registre où elles vont jouer en contre, il peut y avoir des coups à jouer.
Donc les atouts de la France, c'est ça, c'est la vitesse sur les côtés?
Oui, c'est d'avoir déjà une solide base défensive, contrairement à certaines équipes qui ont pris l'eau contre les États-Unis. Oui. Nous, on a quand même des vraies joueuses de classe mondiale.
Et une super gardienne.
Défense, et une super gardienne qui a en plus en pleine confiance après son match face au Brésil.
Oui.
Et cette capacité à bien défendre et ensuite à se projeter très vite vers l'avant avec des attaquantes rapides, c'est vraiment le profil d'équipe qui peut poser problème aux Américains.
Vous les sentez bien, là, les Françaises?
Oui, je les sens bien. Alors c'est vrai qu'elles sont pas mal critiquées sur le fond du jeu. Depuis le début de la compétition. En revanche, on a vu une équipe de caractère capable d'aller chercher des victoires au mental. Elles ont très bien fini face au Brésil, même si elles n'avaient pas très bien débuté le match. Donc on peut penser à la fois qu'elles montent en puissance athlétiquement et techniquement, mais aussi qu'en plus, collectivement, elles sont capables d'aller chercher des victoires.
La chaleur, est-ce qu'il y a une équipe qui peut en souffrir plus que d'autres? Il ne s'agit pas de chercher des excuses. Est-ce qu'il y a une équipe qui est plus habituée, une équipe qui risque de souffrir ou pas?
Les Américaines, elles jouent un peu partout aux États-Unis, donc elles n'ont pas forcément... C'est sûr que celles qui ont l'habitude de jouer en Floride, elles sont peut-être un peu plus avantagées, mais globalement, je pense que c'est du 50-50. On a vu l'équipe de France se préparer à la chaleur en allant aussi s'entraîner dans la chaleur, en sortant beaucoup, en restant pas dans la clim confinée toute la journée pour habituer les organismes. Et après, je sais que les staffs médicaux et les préparateurs physiques ont beaucoup travaillé sur cette donnée, avec beaucoup d'hydratation, avec de l'eau un peu plus salée pour conserver l'eau, etc. Donc il y a tout un tas de techniques qui font que normalement ce soir, ça devrait bien se passer.
Pour ceux qui n'ont pas suivi les matchs jusque-là et qui vont peut-être suivre ce soir, qui fait qu'on va passer de 12 à 15 ou 20 millions, une joueuse à suivre de chaque côté.
Aux États-Unis, la superstar, c'est Alex Morgan. Mais Alex Morgan, elle n'a pas forcément montré son vrai visage depuis le début de la compétition. Donc soit elle se révèle, soit il faudra vraiment faire attention à Megan Rapinoe, qui est également une des autres stars et qui évolue sur le couloir gauche de l'attaque américaine. En France, c'est toujours difficile de sortir une joueuse. Je dirais qu'on a les valeurs sûres. On a Amandine Henry qui confirme son niveau. On a des joueuses très expérimentées. Mais la révélation du début de cette compétition, c'est vraiment Kadidiatou Diani, une des attaquantes qui évolue dans le couloir droit et qui, pour l'instant, a fait très mal au défense adverse à chaque match.
Vous êtes impatiente ?
Oui, très.
Alors à ce soir, on suivra ça. Merci beaucoup, Nadia. Efficacité insuffisante. La haute autorité de santé recommande que l'homéopathie ne soit plus remboursée par la sécurité sociale. Écoutez, Mathilde Grande, elle dirige le service d'évaluation des médicaments à la haute autorité de santé. Pour fonder leur jugement, ils ont pris 37 études fiables.
Nous avons étudié plus de 24 symptômes sur lesquels nous avons retrouvé des données dans la littérature. Pour ces 24 symptômes, soit nous n'avons pas retrouvé de preuve d'une efficacité supérieure ou différente de celle du placebo ou d'un comparateur, soit nous avons retrouvé certaines études qui suggéraient un intérêt de l'homéopathie et du médicament homéopathique précisément, mais qui présentaient de tels biais que nous ne pouvions pas retenir les conclusions. Par exemple, dans la verrue plantaire, nous avons identifié deux essais cliniques qui ont comparé l'homéopathie donc à un placebo. Les auteurs ont regardé si après 6 semaines de traitement, les verrues disparaissaient. Et donc, en l'occurrence, la disparition des verrues était similaire dans les deux groupes. Et il n'y avait pas de différence statistiquement significative.
Alors, qu'en dit-on chez Boiron, le grand laboratoire d'homéopathie ? Alors, ils contestent la méthodologie. On va écouter leurs arguments en précisant tout de même qu'il y a d'un côté une haute autorité indépendante, de l'autre une entreprise qui est par nature jugée partie. Chez Boiron, on demande une réévaluation. Voici Valérie Lurens-Poinceau, la directrice générale du groupe Boiron.
Pour nous, la commission de la transparence n'était pas la commission adaptée pour pouvoir évaluer correctement l'homéopathie en tenant compte de ses spécificités. Dans cette commission, il n'y a pas d'expert de l'homéopathie. D'ailleurs, il n'y a qu'un médecin généraliste, alors que l'homéopathie est totalement adaptée à la médecine générale. Alors nous, bien évidemment, nous demandons au ministère de la Santé et au gouvernement de ne pas tenir compte de cet avis. Nous lui demandons de maintenir le remboursement des médicaments homéopathiques et nous souhaitons un moratoire par rapport à cette question de l'homéopathie pour permettre de mettre en place une évaluation qui soit adaptée. Je pense qu'il faut absolument qu'un débat public s'ouvre sur le sujet.
Débat arbitré par Véronique Julia. Comment justifier la présence de Marion Maréchal-Le Pen à l'université d'été du MEDEF ? Elle n'a pas de mandat. On ne sache pas que son école de sciences politiques soit un modèle de réussite. Alors à part recevoir la politique habile qui est en train de jeter des ponts entre la droite républicaine, la droite des affaires et l'extrême droite, on ne voyait pas de raison de convier Marion Maréchal à l'université d'été du MEDEF. L'invitation avait créé la polémique, elle est annulée. Écoutez, Thibault Langsade, ancien vice-président et toujours adhérent au MEDEF.
C'est la voie de la sagesse, il vaut mieux le faire tout de suite que d'attendre que les choses se gandèrent. Donc voilà, on peut philosopher sur le fait, fallait-il ou pas l'inviter. Moi, je pense que le débat doit s'instaurer quand on a des extrêmes qui donnent des idées sur la partie économique et que ces idées sont globalement, dans la grande majorité d'entre elles, en inadéquation avec le monde des entreprises. Bah, il vaut mieux débattre, confronter les idées, sachant que le Rassemblement national est une force politique, quoi qu'on en dise. Il semblerait même qu'il soit arrivé en tête aux dernières élections. Il y a aussi des entrepreneurs qui peuvent être sensibles à ce que dit le Rassemblement national. Et c'est justement la meilleure des choses de montrer que ces idées, si on veut en tout cas contrer, combattre, c'est le débat, il n'y a rien de mieux. Voilà ce que je dis après que Marion Maréchal-Le Pen ait voulu scénariser sa venue au manège, je vous garantis une chose, c'est que c'était pas la guest star. Maintenant, si c'est une polémique, voilà, je salue la sagesse de Geoffroy, qui est de se retirer au bon moment.
Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, propos recueillis par Maxime Debs. Là, c'était Thibault Langsade hein, qui parlait. L'actualité politique est Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France Insoumise et cinq de ses proches qui seront jugés en septembre pour les accrochages qui ont émaillé les perquisitions à son domicile et au siège du mouvement en octobre dernier. Ils sont poursuivis pour actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion, provocation. Ils comparaîtront donc les 19 et 20 septembre prochains. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Moment difficile de plus pour Jean-Luc Mélenchon.
Oui, la correctionnelle pour le leader de la France Insoumise et ses très proches, hein, vous le disiez, Alexis Corbière, Bastien Lachaud, Manuel Bompard, et qui sont les tenants de ce que leurs détracteurs appellent la ligne dure, ça tombe mal, alors que le mouvement traverse une crise inédite. La sévère défaite aux élections européennes a été clairement le signal pour tous ceux qui, depuis un an déjà, doutaient de la stratégie du mouvement, à savoir une ligne populiste et autarcique par rapport au reste de la gauche. La députée insoumise Clémentine Autain a été la première à tirer, elle s'émancipe avec cet appel au Big Bang de gauche, qui a recueilli les voix déjà de hamonistes, de communistes, mais aussi d'écologistes à l'origine bienveillants à l'égard de Mélenchon, comme Noël Mamère, ou même Olivier Besancenot, qui donnera de la voix dimanche lors d'un rassemblement à Paris. Il y a eu aussi l'appel interne de 40 cadres réclamant un changement de fonctionnement, le départ d'un pilier intellectuel et affectif, Charlotte Girard, et puis l'hémorragie se poursuit après le discours très raide dimanche d'un Mélenchon qui a tapé le nombrilisme des dissidents. C'est Manon Le Breton, la directrice de l'école insoumise qui démissionne. La justice est aux ordres, dénoncent en substance les proches de Mélenchon. Et c'est vrai que les fuites dans la presse et la convocation de l'attaché de presse du mouvement interrogent. Le RN, par la voix de Nicolas Bay, parle de harcèlement pour des faits mineurs. Un bon baiser de Judas.
Merci Laurence Perron. J'ai testé pour vous chaque vendredi dans ce journal de 13h. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Bruno.
C'est vous qui vous y collez cette semaine. Alors ce devrait être l'une des attractions cet été sur les plages. Le surf électrique, une planche avec un foil, vous savez, ces petites ailes rigides placées juste en dessous, un petit moteur électrique. Et avec ça, nous dites-vous, on peut voler au-dessus de l'eau, de quoi procurer des sensations fortes, même chez les novices. Vous avez testé, Jérôme.
Alors d'abord, avant de monter sur la planche, oui. Il faut quand même quelques règles élémentaires.
Un pied en avant, un pied en arrière. Et toujours au milieu de la planche, hein, pas un pied à gauche ou à droite.
Alors on a une télécommande en main qui permet de régler la vitesse et normalement, une fois lancé, on s'élève au-dessus de l'eau. Je dis normalement parce qu'il faut quand même avoir déjà la bonne position sur la planche et ça n'a pas été mon cas lors du test sur la Seine à Boulogne-Billancourt. Cyril Coste est le créateur de ce système.
Voilà, donc ça c'est le capot de la planche et à l'intérieur de la planche, donc on a la batterie qui nous permet de voler environ une heure et demie.
Alors vous l'avez testé sur la Seine, dites-vous, quel est l'intérêt d'une telle technique? J'insiste sur le fleuve parce que la clé est là.
Mais justement, c'est de pouvoir glisser sur tout type d'eau, effectivement, un fleuve, un lac. Pas besoin non plus d'avoir 10 ans de pratique et de technique derrière soi pour prendre du plaisir. Détail, Cyril Coste qui a fondé sa société Takuma.
J'avais envie de rendre ce produit beaucoup plus accessible pour qu'il y ait beaucoup plus de monde qui puisse avoir ces sensations de voler en folle. Ça nous permet d'aller quand même plus vite parce qu'il n'y a plus du tout de frottement avec la planche. On se retrouve à 80 cm au-dessus de l'eau avec une vitesse qui va quand même jusqu'à 35 km/h. Donc c'est une sensation assez folle.
Oui. Voilà, sans vague ou avec, ben c'est à votre convenance.
80 cm au-dessus de l'eau. Alors ça promet d'être accessible à tous. En fait, pas vraiment parce que pas toutes les bourses. Hein.
Non, mais son prix, hein, 6 499 euros. Et pourtant, Takuma, hein, c'est une start-up installée à Lille, l'une des trois existantes au monde dans ce secteur, devrait vendre cette année 3500 planches pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Son autre fondateur Thomas Bévillacois.
Il y a un vrai marché sur la location. On a livré nos premiers loueurs cet été, en Corse, dans le sud de la France, en Bretagne, en Normandie. Évidemment, notre but, c'est de faire en sorte de le démocratiser encore plus et de trouver des moyens en conception pour réussir à faire en sorte d'avoir des planches plus accessibles en prix assez rapidement.
Et si pour l'instant, ce surf électrique reste au stade du loisir, bien les créateurs de Takuma rêvent en plus grand.
Dans nos rêves les plus fous, on imagine que demain, à Amsterdam, les gens aient travaillé dans les canaux à l'aide de e-foil ou sur la Seine. Demain, ça, on peut avoir des moyens de transport écologiques autour du foil électrique, que ce soit en surf, en bateau, et encore toutes les formes qui restent à inventer demain.
Voilà Bruno, vous avez eu les débats et les polémiques sur la trottinette électrique, peut-être celle à venir sur le surf électrique.
C'était Jérôme Val pour le GTST de ce vendredi, merci Jérôme.
La météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Le temps toujours très très chaud, Elodie Calac.
Le thermomètre s'enflamme sous un soleil écrasant, juste quelques nuages persistants près de l'océan. C'est entre l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône qu'on attend les valeurs les plus hautes, jusqu'à 42 à 45 degrés. Soyez très prudents pour vous et votre entourage. Sur le reste du pays, comptez souvent 34 à 39 degrés, voire 40. On respire mieux près de la Manche et de l'océan, avec 22 à 32 degrés. Demain, les fortes chaleurs vont remonter vers le nord. On attend 37 à 41 degrés entre le sud-est, le massif central, la vallée du Rhône, le bassin parisien. 32 à 37 ailleurs. De la Bretagne à la côte aquitaine, l'amélioration se dessinera avec moins de 30 degrés. Elle se poursuivra sur l'ouest et le nord de la Seine dimanche. Il faudra attendre le début de semaine prochaine sur les régions les plus à l'est.